Suivez à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Claude Sanza à la présentation.
Bonsoir et merci d'être nombreux à suivre cette émission Dialogue entre Congolais. La journée de l'enfant africain, c'est le 16 juin prochain. Dans l'entretemps, l'Assemblée nationale a adopté il y a près d'une semaine la loi portant protection de l'enfant. Cette loi vise à protéger l'enfant congolais contre toutes sortes de traitements dégradants, notamment le phénomène d'enfants dits sorciers, d'enfants de rue, ceux associés aux groupes armés ainsi que les violences sexuelles contre les mineurs. Que contient cette loi et comment la faire appliquer en RDC dans un contexte politique, économique et social difficile? C'est l'objet de l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Nous recevons pour en parler Madame Ndombe Sita, députée nationale de l'opposition et présidente de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale à l'origine de cette loi. Willy Iloma, coordonnateur de l'ONG Fraternité pour le droit des enfants dans la province du Bas-Congo. Il intervient à partir du territoire de Mwanda au Bas-Congo. Nous aurons aussi dans cette émission un sociologue en la personne du professeur Mouluma Munanga qui enseigne la sociologie à l'Université de Kinshasa. Des réactions de nos auditeurs, nous en avons sélectionné quelques-unes. William de Kananga au Kasaï occidental félicite les législateurs congolais mais demande si on peut espérer que cette loi va enfin mettre fin au phénomène chégué, c'est-à-dire enfants de rue dans nos villes. Chubaka Floribert de Chibumba au Sud Kivu se demande si cette loi amènera les groupes armés à renoncer au phénomène enfants associés aux groupes armés. Sinon, comment finira ce phénomène? Enfin, pour Franck de Kindu Maniema, voilà encore une loi pour rien. D'après lui, comment faire respecter les droits des enfants dans un contexte de misère dans laquelle baigne la majorité des Congolais?
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Que contient cette loi sur la protection de l'enfant congolais? C'est ce que nous verrons dans la première partie de cette émission. Je vous invite donc à suivre notre confrère Willy Akonda qui s'y est penché et nous en dégage les grandes lignes.
Selon la nouvelle loi qui comprend 200 articles, est considérée comme enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Cette loi interdit toute forme d'exploitation sexuelle ou économique de l'enfant et son enrôlement dans les forces et groupes armés. À son article 171, le viol d'enfant est puni de 7 à 20 ans de servitude pénale principale et une amende allant de 800 000 à 1 million de francs congolais. Cette peine peut être doublée pour les personnes ayant autorité directe sur l'enfant. Quiconque contamine délibérément un enfant d'une infection sexuelle transmissible incurable, notamment le VIH-SIDA, est puni d'une servitude à perpétuité et d'une amende comprise entre 500 000 et 1 million de francs congolais, selon l'article 179. Il est dit également dans l'article 55 de cette loi que nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage. La dite loi condamne également les coups et blessures volontaires exercés sur l'enfant à une peine de 3 à 12 mois de servitude pénale et d'une amende de 100 000 à 250 000 francs congolais. La loi portant protection de l'enfant, adoptée le samedi 31 mai dernier, a été envoyée au Sénat pour une seconde lecture avant son adoption et sa promulgation.
Madame Ndombe Sita, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée nationale de l'opposition et présidente de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale à l'origine de cette loi. Est-ce qu'on peut connaître quelles nouveautés cette loi apporte par rapport aux dispositions juridiques qui existaient déjà en matière de protection de l'enfant congolais?
Oui, cette loi apporte plusieurs nouveautés. Parce qu'à l'époque, disons qu'avant cette loi, les dispositions qui sont contenues par exemple dans le code pénal qui régissait les grandes personnes, ces dispositions régissent jusqu'à aujourd'hui les enfants, ce qui n'est pas normal. En matière de code de travail, il y a aussi des dispositions qui sont contenues dans ce code de travail qui régissent aussi les droits de l'enfant. Par exemple, un enfant de moins de 14 ans ne peut pas exercer un travail rémunérateur. Il faut attendre 17 ans pour qu'un enfant puisse exercer un travail, mais avec l'autorisation du juge, par exemple. Donc, vous allez remarquer que cette loi apporte plusieurs nouveautés. Par rapport des procédures extra, il y a des procédures qui sont prévues dans cette loi, les procédures extrajudiciaires, notamment la médiation, ce qui n'existait pas dans le code pénal, par exemple. Au lieu d'emmener l'enfant devant les juges, essaie de faire la médiation, donc désigne un médiateur pour essayer de voir comment on peut régler l'affaire pratiquement comme je peux le dire en famille.
Il y a aussi des enfants qui croupissent dans les mêmes prisons que les adultes.
Mais justement, tout ça, avec l'application de cette loi, tout ça va changer parce que l'État devra disposer de, ou bien créer des centres d'éducation, des établissements d'éducation et de garde, ce qui existait d'ailleurs à l'époque à la colonisation, pendant la colonisation, même dans les années 60, on avait encore des centres de, ces centres existaient, des établissements de garde et d'éducation.
Oui, quand ils appartiennent à l'État congolais.
Oui. Et là, les enfants sont suivis, les enfants étudient, et maintenant, ce sont des centres qui n'existent plus pratiquement. Donc, avec la mise en application de cette loi, l'État devra créer tous ces centres-là pour pouvoir recevoir les enfants qui sont en difficulté, par exemple, les enfants qui ont des problèmes, qui sont en conflit avec leurs parents, les enfants qui ne vont pas à l'école. Il y aura des écoles, justement, des centres pour encadrer ces enfants. Et il y aura aussi des assistants sociaux, ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais avec l'application, la mise en œuvre de cette loi, nous allons avoir des assistants sociaux qui vont suivre les enfants, qui connaîtront les enfants, leur résidence jusqu'à l'école, qui verront, par exemple, si ces enfants vont à l'école, si ces enfants sont en déperdition scolaire, si ces enfants n'ont pas de bonnes notes. Donc, ce sont des assistants sociaux qui vont devoir suivre les enfants, donc à partir de la maison jusqu'à l'école et vice-versa. Donc, là, ce sont des nouveautés. Il y aura aussi, disons que le ministère, par exemple, de l'Intérieur aura à mettre sur pied une brigade spéciale de police pour mineurs. C'est pas pour enfermer les enfants, mais pour suivre les enfants qui délinquants, par exemple, les enfants qui traînent la nuit, les enfants un peu difficiles, des cas difficiles. Donc, voilà à peu près. Et puis, bon, la pénalisation des accusations de sorcellerie contre les enfants, ce qui n'était pas sanctionné, mais aujourd'hui, un enfant qui est accusé de sorcellerie, disons la personne ou bien les parents ou les voisins qui accusent un enfant de...
Ou même les religieux, les membres des églises.
Les membres des églises vont aussi être poursuivis. Donc, voilà un peu en bref toutes les nouveautés que contient cette loi.
Madame Ndombe-Sita, je vous garde encore, puisqu'on a encore, on a aussi d'autres invités qui sont en ligne. Vous avez parlé des assistants sociaux. Est-ce que ces assistants sociaux ou ces assistantes sociales pourront aussi, comme en Europe, par exemple, ravir des enfants à des familles parce que les parents sont négligents?
Oui, bien sûr, ils pourront le faire. C'est la raison pour laquelle l'État devra créer plusieurs centres qui vont recevoir ces enfants qui ont des problèmes avec leur famille, qui ont des problèmes à l'école, qui ont des problèmes avec des voisins ou des enfants qui ont commis des faits assez graves. Si vous savez qu'un enfant qui a commis des faits aujourd'hui, par exemple, vous le retrouvez à Makala, mais ce qui ne sera pas le cas lorsqu'on aura toutes ces structures, ces enfants vont être suivis. Ils seront dans des centres pour enfants, ils seront suivis psychologiquement, voilà.
Madame Ndombe-Sita, je rappelle que vous êtes présidente de la commission socioculturelle qui a élaboré cette loi sur la protection de l'enfant. C'est très alléchant ce que vous venez de dire comme nouveauté, mais d'où viendront les moyens?
Les moyens viendront de l'État, justement. Ne pensez pas que ce pays ne va pas se développer. Bien sûr, c'est pas aujourd'hui que cette loi sera mise en application. Évidemment, on aimerait bien, mais compte tenu des moyens insuffisants que l'État dispose en ce moment, cela se fera d'une manière progressive. Mais notre souhait est que cette loi soit d'application le plus rapidement possible, mais compte tenu des moyens.
Et ça pourra s'appliquer à partir de quand?
Ça pourra s'appliquer à partir dans 2 ans.
Dans deux ans,
en tout cas, nous allons, disons qu'on a laissé quand même le temps à l'État de pouvoir s'organiser pour mettre en place toutes les structures appropriées.
Merci, madame. Nous vous gardons encore dans cette émission. Willy Iloma, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur de l'ONG Fraternité pour le droit des enfants dans la province du Bas-Congo. Et vous intervenez à partir de, du territoire de Mwanda. Est-ce que cette loi répond au combat que mènent les ONG comme la vôtre dans la lutte contre les mauvais traitements infligés aux enfants congolais?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons salué ça. Nous avons salué ça surtout avec les innovations qu'on a érigées là-bas par rapport surtout à l'application des enfants de la chancellerie. Ça, c'est vraiment un problème que nous rencontrons dans nos milieux de travail. Et je pense qu'avec l'article 161 qui parle de la question de chancellerie, ça va nous permettre aussi que nous puissions quand même bien travailler. Et puis, il y a d'autres innovations, j'ai parlé aussi sur l'exploitation économique des enfants. Vous voyez, ça fait très mal quand vous prenez pendant la journée, vous voyez les enfants exploités, en train de vendre des arachides, qu'on sort tous ces gens exploités comme on parle des adultes. Je pense que ça aussi, c'est bien, parce que c'est une innovation qu'on va fractionner tous ces auteurs-là. Et tout ça, c'est un mode de gestion. Ce sont des instruments, en fait, qui existent. Mais le problème, c'est pas est-ce qu'on va bien appliquer ça. C'est la problématique. C'est bien, nous avons la Convention de la Fidélité de l'Enfant, nous avons la Charte de l'Enfant, la Charte de l'Enfant Fidèle, nous avons bien d'autres documents, mais le problème, c'est que sur le terrain, on n'arrive pas à appliquer. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'enfant, nous menons des plaidoyers à tout moment pour qu'on arrive à appliquer sérieusement la loi. Il y a l'innovation encore de l'article 150 qui fait de cours et blessures à l'endroit des enfants. C'est mon courant, c'est tout dans le milieu scolaire. Mais est-ce qu'on va commencer à sanctionner ça? Alors, je viens de suivre Mme Ndombe-Sipa qui a parlé de la police pour mener ça, c'est bien. Donc, nous voudrons vraiment que ceci soit vraiment appliqué. Et pas seulement à ceci, mais partout ailleurs, même à l'intérieur de ce pays, pour qu'il n'y ait pas de généralité, la différence entre les enfants de Kishasa et les enfants de l'intérieur. Et juste à ce niveau, vraiment, nous sommes d'arrange et nous avons salué ça. Et nous avons croire que la journée de l'enfant africain va bien se dérouler par rapport à ce plan.
Merci beaucoup. Je retiens que vous saluez l'innovation en matière notamment de répression contre ceux qui vont accuser les enfants de, d'être des sorciers. Vous avez également salué notamment des articles sur qui vont protéger les enfants contre leur exploitation, mais vous demandez à ce que ces lois soient appliquées dans la mesure où il existe déjà d'autres chartes sur la protection de l'enfant, mais qui ne sont pas appliquées. Avant de revenir à vous, Madame Ndombe-Sita, nous avons également en ligne le professeur Mouluma. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Kinshasa. Que vous inspire cette loi adoptée à l'Assemblée nationale visant la protection de l'enfant congolais?
Je suis l'homme le plus heureux parce que j'ai dans ma charge le cours de législation sociale. Et dans ce cours, j'ai toujours promis aux étudiants pour
On n'arrive pas bien à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer, professeur?
Oui, je disais que j'ai toujours souhaité la protection de l'enfance parce que je suis professeur de législation sociale. Dans la législation sociale, nous prenons la protection de l'enfance, nous prenons la protection de maternelle aussi. Ça vient à propos pour essayer un peu de combler les déficiences que nous avons toujours dénoncées. Je crois que c'est une très bonne chose, et surtout qu'il s'agit de prendre des mesures, n'est-ce pas, qui vont essayer un peu d'aider le pays d'avancer, parce que l'enfance, c'est vraiment le devenir de ce pays, c'est le devenir de... du pays. Alors, lorsque nous ne prenons pas toutes les dispositions, lorsque nous ne préparons pas l'enfance, alors c'est le devenir, c'est l'avenir qui est fait un peu donc d'être mal en point.
Merci beaucoup, professeur. Je retiens que vous saluez cette loi parce que c'est une façon également de protéger l'enfant et de préparer pourquoi pas l'avenir de cette nation qui demeure entre les mains de la jeunesse d'aujourd'hui. Pour Tade Onokoko Okende, président national de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, cette nouvelle loi doit tenir compte de la culture congolaise. Elle ne doit pas être une imitation aveugle de ce qui se fait dans certains pays occidentaux. Tade Onokoko Okenge a été joint au téléphone par notre confrère Willy Akonda.
nous devons garantir les droits de nos enfants. La loi ne peut pas aller vers les extrêmes. Ce n'est pas le but de la loi. Nous devons avoir les pieds sur terre. Nos enfants sont des enfants congolais avant tout, qui doivent être les enfants de notre société. Et je ne viendrai pas imiter les petits Américains, les petits Américains, les petits Français, etc. Ce que je puis craindre est que certains aspects de la loi puissent monter la tête de nos enfants, qui peuvent croire que parce qu'il y a une telle loi, une telle ou telle disposition, ils peuvent s'autoriser n'importe quoi. Cette solidarité à nous là, qui fait notre originalité, ne doit pas être abandonnée au nom de certains principes qui ne sont pas forcément nôtres.
Madame Ndombesita, je reviens à vous. On vient de suivre Monsieur Okenge Onokoko, qui est président de l'Association nationale des parents d'élèves étudiants du Congo. Il dit que cette loi devra tenir compte de la culture et des coutumes congolaises et ne pas imiter aveuglément ce qui se passe dans certains autres pays de peur de perdre nos valeurs. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Effectivement, il a tout à fait raison. Je pense que cette loi a été adapté à nos réalités. Nous n'avons pas fait du copier-coller, nous n'avons pas pris la convention relative aux droits de l'enfant, la convention internationale, nous avons adapté plusieurs dispositions en tenant compte de nos réalités. Par exemple, je n'ai pas l'article en tête, mais quand on dit que l'enfant est libre de choisir sa religion, mais tout en tenant compte du choix des parents, donc l'enfant peut est libre, mais les parents sont là pour encadrer l'enfant, conseiller à l'enfant. Je pense que si on parcourt cette loi, nous allons trouver plusieurs dispositions qui tiennent compte des parents dans tout ça. On n'a pas dit, voilà, maintenant que nous avons une loi qui garantisse les droits aux enfants, mais les enfants aussi ont des devoirs vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'État. Les enfants aussi ont des devoirs à remplir.
Madame Ndombesita, mais quand vous dites par exemple que les assistants sociaux ou les assistantes sociales pourraient même arracher les enfants d'entre les mains de certains parents, par exemple pour cause de maltraitance ou des causes que l'État aura déterminées, est-ce que ce n'est pas du copier-coller par rapport à ce qui se fait en Occident? Parce que si l'enfant appartient à la famille, pourquoi ne pas le remettre entre les mains de...
Oui, mais le spectacle que nous vivons dans la ville de Kinshasa et dans les provinces, c'est un spectacle désolant. Sur le boulevard, vous trouvez 1000 enfants dans les rues en train d'errer la nuit. Et nous passons et on ne fait rien. Moi, je pense que ça doit cesser avec l'application de cette loi. Ce fléau qui a élu domicile chez nous doit disparaître. Un enfant a un parent. Et si le parent ne remplit pas son devoir de parent, l'enfant n'encadre, les parents n'encadrent pas l'enfant, et bien l'enfant, s'il est trouvé dans la rue à une certaine heure, et bien l'enfant, cet enfant, doit être pris en charge par l'État. D'où le rôle des assistants sociaux.
Oui.
Ou les brigades spéciales de police pour mineurs. C'est pas pour enfermer l'enfant, mais c'est pour prendre l'enfant, enlever l'enfant de la rue et le mettre dans une structure appropriée.
Merci beaucoup, madame. Nous allons directement au Bas-Congo, à Moanda, d'où intervient Monsieur Willy Iloma. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Fraternité pour le droit des enfants dans la province du Bas-Congo. Nous savons qu'ici à Kinshasa, ben les gens respectent la culture ou les coutumes, parfois non, mais à l'intérieur du pays, quand même les gens respectent, essaient de respecter la coutume. Comment vous réagissez par rapport à ce que vient de dire madame Ndombesita sur le respect de la loi qui doit tenir compte de la culture et de coutumes du pays?
Oui, en fait, nous respectons tous nos coutumes, mais c'est vrai que nous devons aussi nous référer par rapport à la loi. Donc, bien qu'il y ait des coutumes ici, mais la loi doit être toujours au-dessus, parce que, en fait, le législateur n'a pas fait de loi par hasard. Il a tenu compte de tous ces aléas-là. Et évidemment, nous pensons beaucoup plus de problèmes à ce niveau-là. Ou quand il y a un problème de la chose de l'enfant, mais vous devez écouter chez nous, ça s'arrange de manière franchement l'amiable, alors que l'enfant est victime a été victime de cette loi. Et ça pose problème. Mais je pense que le problème doit beaucoup plus être au niveau de la sensibilisation. Il va falloir qu'on puisse mener beaucoup plus de campagnes de vulgarisation, qu'on puisse vulgariser la loi. Et quand la loi sera connue de tout le monde, à ce moment-là, l'adage, lui, ça fait, la loi ne peut pas se poser. Parce que si vous allez remarquer qu'il y a seulement un groupe déjà d'intellectuels qui fassent interpréter la loi. Alors que le grand problème, c'est que nous connaissons, il y a un taux élevé d'analphabétisme, il y a le déficit de publication, les diffusions des vulgarisations, et surtout le coût et le paiement des fautes et les autres recueils des droits.
Mais est-ce que vous pensez que dans nos villages, dans les villages du Bas-Congo, où vous trouvez oui. nos grands-parents, nos oncles, nos tantes qui sont là-bas, pourraient oui. comprendre facilement cette loi et obéir à cette loi?
Mais pourquoi pas, ce sont des personnes. Il faudrait que nous devons descendre là-bas et les parler dans leur langue et les faire comprendre parce que nous avons amené des campagnes là-bas quand on était un peu dévigacé la loi sur les violences sexuelles. Nous sommes entrés là-bas, nous avons discuté avec les notables, nous avons discuté avec les villageois et ils ont compris.
Merci.
Oui, le problème c'est qu'il y a maintenant des mesures, qu'il y a plusieurs fois des séances de sensibilisation, je ne sais pas si c'est ça l'application.
Justement, nous avons un sociologue dans cette émission, le professeur Mounouma. Placez-y un mot par rapport à la prise en compte de la culture ou des coutumes congolaises dans cette loi.
Effectivement, culture pas important pour le développement. Il faut tenir compte de culture congolaise, c'est bien beau. Mais au-delà de la culture, il y a aussi un élément important que le législateur doit tenir compte, c'est le problème des conditions, l'amélioration des conditions des parents. Parce que pour le moment, si il y a des problèmes, il y a un laisser-aller parce qu'il y a des parents qui sont mal payés, qui ont de mauvaises conditions aussi. Il faut améliorer les conditions des parents. Ça, c'est un devoir qui incombe à l'État.
Des conditions sociales, vous voulez parler?
Les conditions sociales, les conditions de travail. Toutes ces conditions, c'est très important. Ça doit accompagner, n'est-ce pas, cette loi-là. Parce que si les gens ne sont pas bien conditionnés, vous comprenez que nous allons toujours vivre, n'est-ce pas, le même problème que nous avons toujours vécu. Alors, en dehors donc, de la culture, qui est très importante, l'adaptation, mais attention, il y a des antivaleurs dans certaines cultures. Nous ne devons pas nous baisser dans les mauvaises cultures parce que il existe des antivaleurs. Alors, il faut de bonnes cultures. Il faut arriver donc à avoir des cultures qui soient donc des éléments importants, qui soient de réseaux acceptés par tout le monde. En dehors de ça, il faut améliorer les conditions donc des parents. Les parents doivent être responsables, scolariser les enfants et essayer un peu d'encadrer les enfants. Et ce n'est que dans cette condition qu'on peut gagner le pari.
Merci beaucoup, professeur. Excusez-moi, madame, avant de passer à notre deuxième partie, mais on a l'impression que, au niveau de l'Assemblée nationale, cette loi n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme des députés nationaux parce que il a fallu deux séances pour l'adopter. À la première séance, il y avait moins de 340 personnes. Je ne sais pas s'il y avait une centaine ou 200, je ne sais pas, mais il fallait que le vice-président de l'Assemblée nationale puisse insister pour que les députés nationaux soient là à la deuxième séance pour l'adopter. Comment l'expliquez-vous?
Non, mais vous avez quand même suivi les débats. Les débats étaient quand même assez houleux. En ce qui concerne l'adoption, cela arrive souvent que, bon, qu'on n'atteigne pas le quorum, mais qu'on attend les jours d'après pour pouvoir faire adopter une loi. Donc, ce n'est pas seulement le fait que, bon, ça soit une loi sur la protection des enfants qui n'ait pas intéressé les députés. Et moi, je ne pense pas. Je pense que c'est juste un problème de quorum qu'on n'a pas atteint, mais cela n'a rien à voir avec cette loi, parce que c'est une loi qui intéresse tout parent et un député d'avant tout parent, parce que comme je l'ai dit, les spectacles que nous vivons aujourd'hui, avoir les enfants dans la rue, les enfants qui vendent des mouchoirs, les enfants qui vendent de l'eau, moi des fois je m'arrête et je pose la question, mais vous n'allez pas à l'école? Non. Les parents n'ont pas payé le Minerval, j'ai été chassé de l'école et tout ça. C'est ce qu'a soulevé
justement le professeur
effectivement, il a tout à fait raison, parce que les parents ont l'obligation d'envoyer les enfants à l'école, mais lorsqu'ils n'arrivent pas à payer le Minerval ou à acheter des cahiers, tout ce qu'on demande comme matériel pour que l'enfant soit mis dans les bonnes conditions de travail, lorsque ses parents sont démunis, je crois qu'il est assez difficile que ses parents puissent envoyer les enfants à l'école.
Mais qu'est-ce que vous, madame Domestika, dans la commission, est-ce que vous avez prévu des mesures d'accompagnement de l'État, c'est-à-dire de, comme ça s'est fait dans les autres pays, l'aide sociale, l'aide financière pour les familles nombreuses?
C'est prévu dans cette loi. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, ce budget que nous avons voté l'année dernière n'est pas en mesure de rencontrer toutes ces préoccupations. Nous espérons, dans les jours à venir, dans les budgets prochains, qu'il y aura une quantité assez importante qui sera dégagée pour justement mettre sur pied toutes ces structures et aussi donner du travail aux parents pour que les parents puissent être en même de prendre en charge leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes scolarisés
par la Constitution, mais ça n'a toujours pas été appliqué.
N'est pas appliqué. Les parents, comme on le dit, ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école sans discrimination. Mais l'État garantit le droit de l'enfant à l'éducation en rendant obligatoire, comme vous l'avez dit, et gratuit l'enseignement primaire public. Mais cela, aujourd'hui, même si l'État prend en charge, mais il y a toujours des frais annexes, des frais connexes que les parents prennent en charge. Et lorsque les parents n'arrivent pas à se libérer de ces frais, les enfants restent à la maison. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, ce sont les enfants qui nourrissent la famille.
Merci beaucoup, madame. Adoption à l'Assemblée nationale de la loi sur la protection de l'enfant, comment la faire appliquer en RDC dans un contexte politique, économique et social difficile? C'est la deuxième partie de cette émission, Dialogue entre Congolais. Vous pouvez aussi réagir en suivant la procédure ci-après.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment se fait la prise en charge des enfants associés au groupe d'armée dans la province du Sud Kivu? Jean-Claude Moukoubois, secrétaire exécutif du groupe des voix des sans-voix, section Ouvira, affirme que les milices, groupes et autres structures de l'armée continuent à utiliser ces enfants. Toujours selon lui, l'intégration des enfants démobilisés montre également ses limites. Il est au micro de notre confrère Willy Akonda.
Les enfants sont encore dans les groupes armés, le groupe Midouvira, dans les fusils, enfin, même à Minemboy. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des enfants qui ont sorti de l'armée, qui ont été transférés au sein des CTO. Ces enfants, dès qu'ils quittent les centres, on les réunifie dans leurs familles respectives. Mais seulement, ce qu'on peut parler, l'encadrement n'est pas effectif. Parce que le budget alloué pour ce fin est insignifiant. Un enfant reçoit au moins l'équipe de $50 pour la réinsertion. Ce n'est pas l'argent qu'on lui remet en espèces, mais ce sont les matériels qu'on achète dans le cadre du métier que l'enfant avait appris lors de ce séjour au CTO, chose qui fait quelquefois ces enfants rentrent encore même dans l'armée.
Dans la ville de Boma au Bas-Congo, il existe plusieurs structures d'encadrement des enfants dits sorciers. Pour le pasteur Antoine Pambouloutété, responsable du centre d'encadrement et de récupération des orphelins des enfants abandonnés, les parents abandonnent ces enfants qui pourtant sont intelligents. Ils déplorent le fait que ces enfants, une fois dans la rue, sont exploités par certaines personnes. Suivant le pasteur Antoine Pambouloutété, toujours au micro de notre confrère Willy Akonda.
C'est une catégorie qui domine à Boma. Moi, dans mon centre, il y a 45 enfants dissociés. Sans se rendre compte qu'ils sont encore dans d'autres centres, hein, et ces enfants sont exclus de la famille alors d'une prophétie. Un clairvoyant, une prophète, ou clairvoyante, ou pasteur, ou peut-être prêtre aussi, qui soupçonne que l'enfant est sorcier, et bien cet enfant est mis à la porte, et il est exclu de la famille. Nous déplorons ça. Et nous sommes très contents de la loi qu'on veut adopter au niveau de l'Assemblée nationale. Ça va beaucoup aider les gens. Les enfants sont torturés, et ils ne sont pas acceptés en famille. Quand ils sont dans la rue, ils sont exploités par des parents, par des familles. On se pose des questions. Ces enfants sont des sorciers. Mais vous les voyez avec des bassins, ils sont en train de prendre de l'eau. Ils sont maltraités. Alors la loi nous dit qu'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ou 16 ans ne peut pas travailler. Mais ils travaillent. Et puis ils sont mal payés.
Madame Dombé Sita, donc Chubaka Floribert de Chibumba au Sud Kivu, qui est l'un de nos auditeurs, se demande si cette loi amènera enfin les groupes armés à renoncer au phénomène enfants associés aux groupes armés. Sinon, comment en finir avec ce phénomène des enfants associés aux groupes armés?
Il y a déjà un décret-loi numéro 066 du 9 juin 2000, portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes. En principe, ces enfants ne doivent plus faire partie...
Parler devant les micros, s'il vous plaît.
Ces enfants doivent être démobilisés, comme l'a dit l'intervenant, et doivent bénéficier d'un encadrement adéquat. Mais, comme il l'a dit, ça ne suffit pas. Il y a des ONG qui encadrent ces enfants, mais ça ne suffit pas. L'État devrait s'impliquer à fond pour l'encadrement des enfants. Parce que malgré ce décret loi, aujourd'hui, on continue à enrôler les enfants. En Ituri, on continue à enrôler les enfants, ce qui n'est pas normal. Donc, je pense que l'État devrait quand même respecter ce décret loi.
Il y a un auditeur qui n'a pas donné son identité, qui voudrait savoir si dans 2 ans l'État sera capable de réunir les moyens en vue de mettre en place des structures de rééducation. Il poursuit en disant que 2 ans c'est trop long parce que pendant ces temps certains enfants vont continuer, à être maltraités en prison.
Oui, disons qu'on a voulu, le législateur a voulu quand même donner un petit temps compte tenu de la situation économique et sociale que traverse le pays. A voulu donner même un petit temps à l'exécutif, à l'État, le temps de mettre en place toutes ces structures. Parce que quand je vous parle des assistants sociaux, quand je vous parle des brigades spéciales pour mineurs, quand je vous parle de d'autres structures qui sont prévues dans cette loi, ce sont toutes ces structures qui doivent être mises sur pied. Donc aujourd'hui, d'emblée, nous allons... dès que le Sénat aura adopté la loi en seconde lecture, cette loi va être promulguée. Mais il faudra un petit temps quant à sa mise en application. C'est la situation économique et sociale qui empêche que cette loi soit mise en application à la date de sa promulgation.
C'est-à-dire la bonne volonté est là.
La bonne volonté est là, la législation a fait son travail, maintenant c'est à l'exécutif de faire le sien, c'est-à-dire la mise en application. Et il y a un auditeur aussi qui a relevé le fait que cette loi doit être vulgarisée et il a bien raison, parce que nous sommes là. Les députés viennent pratiquement de tous les pays, de toutes les circonscriptions électorales. Cette loi devrait d'ailleurs être traduite en 4 langues pour qu'elle soit bien expliquée dans l'arrière-pays.
Merci beaucoup, madame. Professeur Moulouma, vous êtes enseignant de sociologie à l'Université de Kinshasa et vous êtes sociologue. Donc, est-ce que vous pensez que cette loi qui prévoit quand même des sanctions concernant ceux qui vont taxer certains enfants d'être des enfants sorciers, est-ce que cette loi à elle seule pourrait mettre fin à ce phénomène dans la mesure où même l'article 41 de la Constitution de la RDC stipule que l'abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Ça, c'est la Constitution en son article 41 qui le dit. Est-ce que la loi suffit à mettre fin à ce phénomène?
Moi, je crois que le problème qui se pose dans notre pays, c'est un problème d'impunité. Nous avons des bonnes lois, nous avons des bons textes de loi, mais sur le plan d'application, nous n'arrivons pas. Et si on pouvait renforcer aussi le problème, qu'en fait, le phénomène enfant sorcier, ça c'est un nouveau phénomène que nous assistons surtout ici à Kinshasa, avec la prolifération des églises, et les enfants sont abandonnés, et les enfants, et les pasteurs qui proclament tout haut que cet enfant est sorcier, tout ça. Moi, je crois qu'il faut réglementer un peu toutes ces églises-là. Ah, c'est un apport important pour essayer un peu de minimiser, n'est-ce pas, et tout ce problème d'abandon des enfants.
Vous pensez, professeur, est-ce que vous voulez dire que si la loi est appliquée dans toute sa rigueur, cela pourrait mettre fin à ces phénomènes d'enfants dits sorciers dans les églises, dans des sectes et même dans certaines familles qui accusent gratuitement leurs enfants d'être des sorciers, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces familles-là de quoi nourrir ou subvenir aux besoins de leurs enfants?
Vous savez que la plupart de ces enfants dits sorciers, il y en a qui ont des parents, il y en a qui ont des tuteurs, mais ils sont abandonnés parce que, vous savez, nous revenons encore au problème de la culture, on a peur, n'est-ce pas, de dire que cet enfant est sorcier, même si c'est un enfant innocent. Donc, il faut arriver à l'éducation de la population, il faut sensibiliser l'éducation des gens qui, les théologiens eux-mêmes. Je crois qu'un bon théologien, un théologien formé, ne peut pas arriver à donner donc activement une conclusion que cet enfant est sorcier, tout ça. C'est un problème d'encadrement. lorsque l'enfant est encadré, très bien encadré, vous verrez que tous ces problèmes n'existeront pas.
Merci.
Donc, il faut arriver à la punition, il faut punir tous ces gens qui concourent, qui trouvent que il y a des enfants qu'il faut abandonner, il y a des enfants qui sont des sorciers, il y a des enfants ceci. Donc, il faut renforcer la loi. Et puis, il y a aussi la bonne volonté, hein. La volonté politique qui est un facteur important aussi. La volonté politique, c'est-à-dire que l'application de la loi, avec tous les annexes possibles, sans cette volonté politique, donc tout ce que nous allons faire, c'est une galère.
Merci beaucoup, professeur Willy Iloma. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Fraternité pour le droit des enfants dans la province du Bas-Congo. Et vous intervenez justement à partir du territoire de Mwanda au Bas-Congo. Est-ce que vous pensez, comme le professeur l'a dit, qu'il faut appliquer la loi pour mettre fin à ce phénomène d'enfants dits sorciers? Comment ça se passe chez vous là-bas?
Oui, en fait, je suis d'accord avec le professeur. Je voulais dire ceci, que l'enfant est un être vulnérable et malléable, jouissant cependant des droits spéciaux. En raison de son manque de maturité, sa physique et intellectuelle, il doit en principe bénéficier d'une protection spéciale, juridique, sociale et de soins spéciaux. Et si on ne met pas de l'attention, c'est l'avenir du pays qui est en train de se perdre. Alors, le phénomène enfant dissocié, c'est vraiment mon effort de facteur. Et on n'accuse pas les pasteurs, les prophètes, mais du moins, à 80%, c'est eux qui sont cités comme étant, ils ont reçu l'inspiration pour pouvoir dévoiler la société des enfants. Nous en connaissons. Et nous pensons qu'il va falloir vraiment qu'on puisse appliquer la loi. Mais s'il faut attendre, c'est comme a dit madame, 2 ans pour qu'on applique cette loi-là, nous, vraiment, nous pensons que c'est vraiment trop tardé à faire des affaires. Il faudrait qu'on y aille. Je sais que c'était vraiment une recommandation pour nous de faire ce besoin.
Monsieur Willy Loma, mais c'est souvent aussi, il n'y a pas que des pasteurs ou les hommes d'église, mais il y a aussi la responsabilité des familles, parce que souvent, c'est des enfants, des oncles, des enfants qui ne sont pas directement liés à la famille, c'est-à-dire que c'est l'enfant d'un oncle ou d'une tante qui habite dans la famille qui est sorcier, mais l'enfant issu vraiment de ses papas et de ses mamans, de cette maman, souvent, ce ne sont pas, on les taxe pas des sorciers. Est-ce que ce n'est pas une transformation de notre culture aussi qui doit être faite?
Oui, en fait, quand vous remarquez beaucoup, la plupart de tous ces enfants sont des enfants des sorciers, vous trouverez d'abord, soit ce sont des enfants issus des familles pauvres, familles misérables, soit des familles divorcées, où l'enfant vit avec sa marâtre, mais jamais vous trouverez un enfant issu d'une bonne famille, ou une famille moyenne, où vous avez compris que c'est grâce à l'enfant sorcier, ou soit une famille où il n'est pas divorcé, rares sont des cas. Et la plupart des cas sont des familles pauvres, des familles divorcées, où les pasteurs arrivent là pour pouvoir avoir l'estime d'une marâtre ou de faire plaisir à son fidèle, il attire l'enfant de sorcellerie. Et parfois, c'est la sous-alimentation qui fait que l'enfant a des problèmes d'alimentation, sa croissance n'est pas meilleure, et il y a une déformation. Ils disent, voilà, comme le ventre de l'enfant est bétonnant, c'est que l'enfant est sorcier. Donc, ce sont déjà des problèmes comme ça que nous connaissons dans notre société. Et là, maintenant, si je rejoins le professeur qui disait tout à l'heure, maintenant, il va falloir qu'on puisse tenir compte aussi des conditions de vie des parents. Vous voyez, quand le parent est mal payé ou n'est pas payé, il devient impuissant de pouvoir exercer son autorité sur l'enfant.
Merci beaucoup. Oui.
Okay.
Merci beaucoup. Il y a Jean-Claude Moukoubwa d'Ouvira au Sud Kivu qui pense que tant que les enfants ne seront pas encadrés, ils trouveront refuge soit dans la rue, soit au sein des groupes armés. Bonsoir, Willy Akonda.
Bonsoir, Jean-Claude Kienza.
Vous avez sélectionné quelques réactions de nos auditeurs parmi les plus pertinentes, puisque nous en recevons un grand nombre. Nous vous laissons parler en leur nom ce soir.
Et je dis donc bonsoir, Claude Kienza. Chéri Kostik de Ouvira au Sud Kivu pense que voter une telle loi est une bonne chose, mais les autorités nationales et internationales doivent veiller pour que les milices ne puissent continuer à recruter les enfants de moins de 15 ans. De son côté, André Takoy de Lodja au Sankoro dans la province du Kasaï-Oriental félicite les députés pour avoir voté cette loi. Il estime par contre que pour résoudre le problème des enfants abandonnés, il faut penser plutôt à une bonne rémunération des responsables de ces enfants. Odile de Boutembo, quant à elle, demande aux autorités de vulgariser le planning familial pour empêcher qu'il y ait un nombre croissant des enfants dans la rue. Kasmir, c'est donc un auditeur qui nous écrit depuis la cité de Kinzambwete dans le Bas-Congo. Pour lui, cette loi devrait se pencher sur la scolarisation des enfants. Et enfin, Robert Baone de Bukavu, au sud de Kivu, il estime que les yeux devraient plutôt être tournés sur l'application de cette loi.
Madame Ndombe-Sita, je reviens à vous. Vous êtes président de la commission socio-culturelle qui a proposé cette loi à l'Assemblée nationale et vous êtes de l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à Bouchiri Kotik de vous dire ceux qui vous qui pensent que voter une telle loi est une bonne chose, mais les autorités nationales et internationales doivent veiller pour que les milices ne puissent continuer à recruter les enfants de moins de 15 ans. Ce fameux phénomène des enfants associés aux groupes armés à l'est du pays, les milices continuent à recruter. Qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour que cela puisse cesser et que ces enfants aillent à l'école comme tous les autres?
Mais laissez l'État. L'État, comme je vous l'ai dit, que les décrets lois existent, ces enfants doivent être démobilisés et que la milice, qu'on continue plus à recruter ces enfants. Mais c'est le contraire que nous observons. On continue à recruter les enfants et ces enfants qui sont démobilisés ne bénéficient pas d'un encadrement adéquat. Mais on ne peut que faire des recommandations à l'État pour que l'État puisse prendre ses responsabilités et faire exécuter ce décret loi qui existe déjà. Qu'on arrête de recruter.
Oui.
Et que l'État mette la main à la pâte, c'est-à-dire que donne les moyens pour l'encadrement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est 100 plus les ONG qui font ce travail d'encadrement des enfants, les enfants démobilisés, mais ce n'est pas assez. Il y a encore beaucoup d'enfants qui sont qui reste encore dans les rues.
Et c'est que nous a dit Jean-Claude Moukouba, secrétaire exécutif du groupe des voix des 100 voix section Ouvira, qui dit que il y a un problème pour les enfants démobilisés qui ne sont pas bien encadrés et il y a risque que puissent rejoindre de nouveau ces groupes d'armée après les avoir quittés.
Ben, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités.
Mais vous, vous faites partie de cet État.
Nous légiférons. Nous ne gérons pas, parce qu'il faut des moyens pour cela. Il n'y a que l'État qui puisse mettre en application les décrets et les lois que nous prenons.
C'est-à-dire le gouvernement.
Le gouvernement, c'est ça.
Merci.
L'exécutif. Alors, quant au phénomène des enfants sorciers, évidemment, comme l'a dit un auditeur, que les enfants sont faibles, vulnérables, et les parents aussi qui croient à ce phénomène des enfants sorciers, de leurs enfants, de leurs propres enfants, et qui les abandonnent. Moi, je crois que c'est vraiment là une démission. Et aussi, c'est la précarité, le manque des moyens pour pouvoir encadrer. Et c'est la raison pour laquelle ces enfants sont abandonnés. Et là aussi, je pense, dans notre loi, si vous la parcourez, il y a aussi des sanctions qui sont prévues à l'endroit des parents, bien sûr, et aussi parce qu'on a parlé des églises, tout ça, qui propagent, parce que les parents sont vulnérables.
Exactement.
Il y a aussi des sanctions qui sont prévues.
Espérons que ça va s'appliquer. Merci, madame, nous n'avons plus beaucoup de temps. Professeur Moulouma, il y a aussi un problème de planning familial, selon Odili de Boutembo Nord-Kivu, qui demande aux autorités de vulgariser le planning familial pour empêcher qu'il y ait un nombre croissant des enfants de rue.
C'est un problème réel, hein. Vous savez, j'ai toujours prôné la politique sociale ou la politique démographique. Vous savez, un pays comme le nôtre, il n'y a aucune disposition dans le cadre de la politique démographique. Nous ne savons pas.
On ne vous entend plus bien. Déplacez-vous, s'il vous plaît.
Oui, je disais qu'il se pose un problème réel dans ce pays, le problème de la politique démographique. Ça va, vous me suivez?
Oui, oui.
Le problème de la politique démographique.
Rapidement.
Qui concourt à ce que nous sachions les naissances, le taux de naissance, le taux de mortalité, le taux de nuptialité. Il y a du désordre de ce côté-là.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire, il faut arrêter une politique démographique.
Merci beaucoup.
Et ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça.
Merci beaucoup, professeur. Rapidement, Willy Iloma, il y a Robert Bahomé du Soutibou qui pense qu'il faut plutôt appliquer cette loi.
Oui, bien sûr, c'est ça notre souhait. Nous voulons que la loi soit appliquée.
Il ne faut pas qu'on puisse attendre les 2 ans, c'est beaucoup, parce que nous travaillons déjà, nous pensons qu'il va falloir qu'on puisse rapidement appliquer la loi, et ça permettra à ceux qui aient moins d'enfants dans la rue, que nous allons aider ces enfants à réussir la vie.
Oui, madame, rapidement.
Je disais qu'il faut attendre les 2 ans pour mettre en place les structures, mais sinon la loi, elle est appliquée à partir du moment où elle est promulguée.
Merci beaucoup, madame. C'est par vos propos qu'on met un point final à cette émission. Willy Akonda l'a préparé pour vous. Dire au Génial Pala l'a réalisé, Kéline Kouté a recueilli les questions des auditeurs et Sylvain Baogouer a été à la mise en onde. Merci à nos invités. Au revoir et à demain.